Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Jacques Bonafé, bonjour.
Bonjour.
Jacques Bonafé, vous êtes comédien, vous oscillez entre le cinéma et le théâtre. Voilà, je vous présente comme ça.
Oui. Alors, j'ai la chance de faire du cinéma, mais je fais surtout des choses... j'ai mis le pied là-dedans par le plancher du théâtre. Oui.
Vous avez joué dans de nombreux films, oui. Avec des réalisateurs importants.
Non des moindres.
Il faut le dire. Godard, Doyon, ouais. Rivette, par exemple, ce sont des réalisateurs avec lesquels vous avez pu travailler. Ouais. Et par ailleurs, effectivement, vous avez fait de nombreuses pièces de théâtre. Vous avez dit beaucoup de poésie aussi, notamment sur France Culture. De 2015 à 2019, de nombreuses lectures publiques. Vous dites lecture publique ?
Ah oui, lecture publique, lecture spectacle. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes, dont plusieurs d'entre elles que vous avez citées m'ont rendu libre. De par l'exemple qu'elles avaient, ou l'espèce de sale caractère magnifique qui était le leur, et qui... leur donner l'autorité d'être des auteurs. Je crois qu'on ne dirait plus ça aujourd'hui. Ça veut dire par là, le premier d'entre eux, Godard, bousculer les choses en place et dire, puisque c'est ça, on va faire le contraire. Mm-hmm. Que ça avait du sens. C'est-à-dire, on se souvient de lui, il y a pas mal de documents qui repassent actuellement sur qui était Godard, qu'on sait... De manière d'un peu tout bousculer, probablement initié par le fait qu'il y avait avant lui un gros poids de convention. On n'est plus dans la même situation aujourd'hui. Alors, j'ai en poésie travaillé avec des grands braillards magnifiques. Je pense à Jean-Pierre Verhaeghen, qui s'autorise toutes les libertés, qui écrivait tout dire, tout parler, oser. Tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater, tout échouer et en rire, tout oser. Et après, il continue une longue logorée, quelqu'un qui joue extraordinairement avec les mots, avec les jeux de mots, avec le jeu des jeux de mots, et qui a produit aussi dans sa génération, comme ça, une détonation très importante. Issu de la liberté et de la provocation.
Oui, dans les deux cas, il y a dans leur champ respectif, pour Verhaeghen par exemple et Godard, il y a l'idée de remettre en question vraiment les conventions de leur discipline, mais pas que leur, champ artistique, mais pas que le champ artistique d'ailleurs. Ouais. Il y a tout le temps derrière une idée politique.
Ouais, c'est beau hein, de dire ça, de vouloir tout renverser. Et on pense quelquefois, à des silhouettes échevelées, des corps pris dans l'action, des mouvements qu'on a pu voir sur des gravures représentant la Révolution ou les grands démolisseurs géniaux, ceux qui étaient capables de tout culbuter, tout re-questionner, qui osaient. Bon, parce que vous parlez de faire tomber les conventions. Je pense que c'est souvent des personnes qui connaissent très bien les conventions et on ne peut pas les connaître sans les avoir un temps respectées. C'est ça, l'un comme l'autre d'ailleurs. Regardez Godard, sa petite mise d'enfant sage, comme ça qu'on voit dans beaucoup de... Et les petits costumes qu'il portait, qui maintenant ont pris une allure rétro, etc., mais qui étaient à l'inverse de pas mal d'attitudes de liberté qui étaient adoptées à l'époque, hein, de liberté, par le vêtement, par le... Voilà. Quelqu'un qui bouscule les conventions, qui malgré tout est de bonne famille. Pardon, je m'étale un peu. Il en va de même pour Jean-Pierre. J'ai beaucoup aimé Verhaeghen par le fait qu'il est capable d'envoyer des bombes sur le langage, sur le parler dans tous les sens, et qu'en même temps, il connaît très bien les arcanes du beau parler, du bien écrire, des codes de la poésie, et par définition d'ailleurs. C'est une des définitions possibles de la poésie, c'est une forme imposée à l'écriture, c'est une écriture par la forme. C'est une écriture qui donc stipule les conventions, celle qu'on connaît le mieux, bien sûr c'est la rime, on pourrait aussi citer le sonnet, c'est-à-dire c'est un carcan dans lequel, carcan conventionnel de 14 vers, dans lesquels des poètes se sont rendus extraordinairement libres. Voilà. Oh pardon, je suis parti un peu loin.
Pour faire le lien, nous sommes ici à la Station Théâtre et vous allez jouer ce soir même un texte. Alors pour le coup, un texte de Jean Portante. Texte de Jean Portante qui est un monologue personnel, intime, d'un fils qui traverse la frontière et qui, dans les bouchons, entre la France et le Luxembourg, me semble-t-il, se met à méditer, à contempler, à rêvasser autour de... Voilà, de ce fait de traverser la frontière, repense donc à son père immigré italien qui est venu en France, repense et pense aussi aux migrations actuelles, tout en lui donnant aussi une dimension mythologique à ce récit. Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous parler de ce choix de texte que vous portez sur scène ?
Partant de sa migration personnelle quotidienne, imaginant qu'il est frontalier, qu'il travaille entre le Luxembourg et la France, ou plutôt entre la France et le Luxembourg. Et il parle de toutes les migrations. Effectivement, celle qui est dans sa famille, dans son sang, puisqu'il est d'héritage italien, son père, son grand-père sont venus d'Italie, ont dû travailler en Lorraine, et il parle des migrations d'aujourd'hui, qui voit un blocage, un mur face à l'océan qui les empêche de venir, et des murs, qui voient des murs partout. Il parle des migrations de maintenant, ceux qu'on appelle les migrants, et se souvient aussi d'aînés, en quelque sorte le premier d'entre eux. Aîné, c'est le vaincu de la guerre de Troie, celui qui a dû partir et prendre des routes, qui a été chassé plusieurs fois par les dieux et par les éléments. Hein. C'est l'océan qui le repousse de Sicile vers Carthage et puis qui doit partir et repartir encore avant de s'installer, dont le destin dépend de cette fuite perpétuelle, voilà, dont le destin est inscrit dans la fuite. Il parle de tout ça. Oui, vous avez dit monologue tout à l'heure et j'en ai plus le sentiment. C'est-à-dire que si monologue aujourd'hui est trop souvent associé à stand-up, ici il n'y a pas de part subjective, comment dire, qui consiste à dire « Ah, moi je pense comme ça, tiens, il m'est arrivé tel truc ». Ça me paraît plus un travail de conteur, hein, effectivement, solo et conteur-poète. Il y a quelque chose comme ça qui est à la fois de la pièce de théâtre et du poème. Et aussi dans on va appeler ça les boucles qui composent son écriture, les formes d'enchaînement. Hein, le poème, c'est toujours une phrase interrompue, raccourcie ou qui s'arrête sur la page et qui finit par former un petit bloc. Là, c'est comme dans l'Odyssée, toute proportion gardée, parce que mon travail ne fait qu'une heure et quart, mais une série de chants, de courts chants qui se succèdent et qui disent toutes ces situations enchevêtrées.
Qu'est-ce qui vous a amené justement à choisir ce texte ? Quelle a été la résonance que vous avez eue avec ce texte et qui a fait que vous... Voilà, que vous...
Je peux le dire, dans une tentative de sincérité qui me dépasse moi-même. C'est parce que je connaissais Jean Portante, c'était un poète que j'estimais, dont j'avais essayé de suivre et comprendre plusieurs poèmes. Et quand il m'a donné ça, j'ai rien compris. Donc je me suis dit, il faut bien que je travaille, parce que je suis sûr que la lumière va venir. Il y a des textes, c'est très 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 utile à dire ce que je veux dire. Il y a des textes qui attendent la lumière de la scène. Il y a des textes qu'on ne comprend pas quand on les lit, mais quand on les explore, quand on les exploite, c'est incroyable ce qu'ils réservent. Non, je dis ça parce que je suis un peu agacé d'une tendance un peu simpliste au théâtre aujourd'hui, qui fait qu'on doit tout comprendre et que c'est un peu de l'information qui circule, quoi. Vous êtes d'accord avec moi, semble dire la pièce. Alors moi, je vais vous expliquer comment on vit quand on est jeune, ou comment on vit quand on est déclassé, ou autre. Non, le langage d'une pièce est obscur, doit continuer à l'être et nous intéresser parce que tout d'un coup, ça s'éclaire au moment où on l'interprète en scène, où on le voit en scène. Et il y avait comme ça, dans son écriture, une espèce d'obstacle à passer et que je trouvais déjà très dansant, j'oserais dire. Non pas le musical, je pourrais dire, ah oui, ça chantait bien. Non, ça rythmait bien. Oui, j'aimais bien.
Sur ce texte, justement, de Jean Portante, Frontalier, comment avez-vous appréhendé ce texte-ci ?
On approche des choses au théâtre en se les expliquant le plus clairement possible. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire ? Telle phrase. Mais aussi, qu'est-ce que tu crois que ça veut dire dans l'écoute du spectateur ? Qu'est-ce qu'il va comprendre à ce moment-là ? On arrive à faire une projection de ce que ça signifie à l'extérieur, pas forcément dans l'oreille subjective du spectateur, mais ce que ça signifie à l'extérieur. Comme quand on dit « t'as bien entendu là, t'as entendu ce que ça veut dire maintenant que c'est dit à voix haute, tu te rends compte que ça voilà. » Donc on évalue les conséquences de ça, on essaie de comprendre un texte, c'est-à-dire qu'on comprend sa portée. On comprend aussi, là, c'est des chaînons un peu particuliers. Hein. Il y a des tas de petites serrures, des petites choses à déverrouiller dans le texte de Jean Portante. Et après, il y a cette loi, c'est un langage intérieur que je me donne, je veux dire, c'est un peu la loi de l'enchaînement, c'est-à-dire une espèce de règle de l'enfilade, ou plutôt de la fluidité, qui fait que les choses viennent les unes après les autres, et parce qu'elles changent en se passant la main, on parle d'un sujet, on glisse à l'autre, mais attention, tout ça, c'est très très bien évalué, bien... Alors, voilà. Donc, il fallait comprendre, certes, cette histoire des migrations qui est présente dans le texte, aussi certaines douleurs. Pourquoi la douleur d'avoir un père qui a vécu tous ces voyages est si particulière ? Pourquoi peut-être l'attache à la famille, italienne certes, est si particulière ? Parce que le texte se déroule lors d'un deuil, la perte du père. La perte du père, c'est aussi la perte d'un paysage. C'est aussi un cri acharné pour le souvenir. C'est très important à dire aujourd'hui parce que ça manque un petit peu de souvenir, si j'ose dire. Quelquefois, on manque un peu de mémoire. Vis-à-vis de ça, probablement parce que les chantres ont été mauvais, ceux qui auraient dû être là pour nous rappeler ce qu'était le monde d'hier n'ont pas été excellents.
Quand vous parlez justement du paysage qui oui. disparaisse, ce sont les formes justement visibles du travail humain, ouvrier qui disparaît à la vue. Et donc, c'est aussi toute cette mémoire-là.
Je suis du Nord, alors donc, il y a d'abord, en dehors des traces visibles extérieures, qui sont chouettes, hein, qu'on peut aller visiter, qui sont encore des musées en certains endroits, même si on a rasé beaucoup d'usines. Il y a les formes fortes, ce souvenir, qui a bâti le monde dans lequel nous nous trouvons. Mmh. Voilà. Et c'est pas bâti... Quand on est du Nord, on sait que c'est pas fondé sur une seule génération. Voilà, il y a eu un enchaînement des vies, et qu'on est peut-être, nous, une partie de cette vie d'avant, que la boucle ne s'est pas arrêtée. Il faut arrêter de se croire unique en son temps. Bon, il y a quelque chose d'un peu... énorme, aujourd'hui, dans le prestige de la clientèle qui, dit-on, est reine, quoi qu'il arrive, et du pouvoir particulier. Non, notre histoire est attachée à des histoires qui nous précèdent très, très fortement. Vous savez, vous vous souvenez, dans le monde ouvrier, les gens s'en souviennent. La solidarité, elle traverse les générations aussi, c'est ça. Donc, la pièce est en partie rendue à cette mémoire-là, à ces gens qui ont fait Lorraine d'acier avant, dont le travail avait été considérable et respecté. Vous savez que le travail, ça ne se paye pas seulement qu'en argent, mais en considération aussi, ce que souvent le capital a oublié, n'a pas su admettre, n'a pas su admirer à sa juste valeur, n'a accepté de le célébrer qu'à la condition que ça lui revienne, que c'était lui qui avait organisé la fête. Voilà, peut-être de cette originaire du Nord, le fait que certaines des festivités venaient du corps des travailleurs lui-même, du monde ouvrier lui-même, et qu'à ce moment-là, il ne fallait pas l'oublier. Voilà. De même que la célébration de ce qu'ils avaient perdu, de ce qu'ils avaient enduré, devait rester forte. Se souvenir, avoir de la mémoire des migrations aussi, c'est très important parce que il y a des gens pour qui la vie est insupportable d'avoir été à moitié niée. On a oublié d'où ils viennent. Ils sont venus du Maroc pour travailler dans les mines à Grenay, à Los Angeles, etc. Et c'est plus rien, c'est totalement dissipé. Et à nous de rendre un écho de cette douleur aveugle.
Vous parlez donc, oui, effectivement, des migrations d'aujourd'hui, du fait d'aller, de passer la frontière, et qui aussi nous dit quelque chose de la condition humaine. Le fait de partir de chez soi pour aller ailleurs,
oui.
Trouver une meilleure vie, se construire une meilleure vie. C'est aussi dans Frontalier un des thèmes qui est de révéler une des dimensions de la condition humaine.
Oui. Si ce n'est qu'il ne faudrait pas réduire le monde à un mouvement généralisé, ce serait faux. Ce serait tentant. Ce serait un petit peu hypnotisant, un peu comme ça. On se dit, mais c'est vrai, tout voyage partout. Et il y a aussi une raison du monde qui vient de sa sédentarité. De la volonté de se planter là. N'oubliez pas que parfois, les migrants sont très casaniers. Ils peuvent arriver dans une région et souhaiter plus que d'autres presque fermer leurs portes, en tout cas se protéger entre eux dans un clan. Et c'est compréhensible. Il y a toutes sortes de voyages. C'est difficile de faire uniquement l'apologie du voyage et de parler de ça. Tout d'un coup, j'ai eu un sursaut en me disant cette pièce, elle parle là du voyage, mais elle dit pas que tout bouge, tout est sans cesse pris de mouvement.
En l'occurrence, je vous posais la question sur la traversée. Aller de l'autre côté de la frontière, justement, de ce qui marque une séparation.
Oui, alors c'est effectivement dans le texte, hein, puisqu'il s'appelle Frontalier, c'est passer tous les jours la frontière. Un frontalier part le matin de très tôt, il passe la frontière et le soir il repasse la frontière. Il a travaillé à l'étranger. C'est moi, monsieur. Et encore, celui-là sonne pas, il fait juste passer, c'est dans les mots du texte, tout le temps, sans cesse. Il faut passer la frontière pour venir jusqu'ici. Hein ? Que l'auteur dit « je suis étranger par filiation, par étranger par procuration. Papa a traversé la frontière et maman a traversé la frontière, et mon grand-père aussi, même s'il a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, et aîné aussi après la destruction de Troie. Tout le temps, sans cesse, il faut traverser la frontière pour venir jusqu'ici. » Voilà. Y a cette situation-là qui est une des situations sur ce diable de globe, de continuer à de voir sans cesse se déplacer d'un endroit à l'autre, oui, ou d'être issu de familles qui ont beaucoup voyagé.
Il y a cette dimension mythologique. Vous parliez à l'instant, vous citiez à l'instant aîné, fils de Troie, qui doit s'exiler. Aussi, ce texte a évidemment renvoie aussi à ces références qui nous disent que cette histoire est pluriséculaire et millénaire presque. Oui. C'est une question ouverte.
Je suis entièrement d'accord. En même temps, comme je dirais, la pièce réveille des choses, elle ne me semble pas avoir la forme d'un chant séculaire comme ça. Oh, depuis que nous avons été chassés de tous les continents, de tous les bords, etc. Il y en a plein qui sont sans cesse en errance et dont on peut chanter la condition. J'aime à dire qu'il y a quelque chose de technique dans cette pièce ou dans ces pièces, je pense à d'autres aussi, qui fait que on dit concrètement ce qui s'est passé. Vous parlez de l'intemporel, mais moi je vous parlais de l'homme économique. On se déplace parce que il faut le dire, être clair là-dessus, c'est des déplacements pour l'activité économique, des déplacements qui profitent au pays qui, par exemple, fait venir des travailleurs, hein, que ce soit aujourd'hui au Luxembourg, hier en Lorraine, quand on faisait venir des travailleurs d'Italie ou du Maroc ou d'Algérie, pardon, beaucoup d'entre eux. Il y a une raison économique plus qu'intemporelle. Voilà, c'est peut-être bien à dire parce que ça va continuer avec les déplacés climatiques. Si on doit croire, allez, on va l'appeler cette fable pour l'instant, même si les fables s'avèrent vraies. Il y a déjà des gens qui sont effectivement amenés à se déplacer, mais peut-être qu'on se trompe sur la forme des déplacements. Et en tout cas, on ne sera pas toujours dans une économie fondée sur des déplacements à tout prix. Voilà. Il faudrait aussi envisager des textes qui parlent avec la même force prenante du fait de se rétablir chez soi, d'être... De parler de son pays qui a réussi à se reconstruire et qui a réussi à retrouver une économie qui permet d'y vivre. Voilà. Je vais vous dire, je ne saurais pas bien répondre à tout ça, personne ne saurait. Le chant des exilés, il est très très beau. Les musiques de la souffrance, elles sont incroyables quelquefois, très très belles. On se demande d'où vient cette plainte et sans laquelle il n'y aurait pas eu de musique. Voilà. On pense bien sûr à l'origine de la grande musicalité de la culture juive, comme ça, qui est issue de ses errances et du fait d'être chassé plusieurs fois. Et il y a une mélopée qui lui est chère et qui initie toute une vocalisation comme ça, du chant qui est très spécifique à leur culture, à la diaspora et au fait d'être... sans frontières, de voir constamment les passer et de constamment de voir les déplacer. Voilà des petites méditations.
Ce texte, donc, vous le dites au public, évidemment. Oui. C'est aussi un texte.
Ah oui.
Me semble-t-il. Qu'est-ce que vous vouliez montrer justement au public à travers cette diction du texte ?
Vous répondre parce que je fais des réponses un peu trop sophistiquées là, je fais trop le savant. Non mais c'est un truc tout simple. J'aime pas au théâtre les mecs qui croient totalement à ce qu'ils font là. Ils sont plongés dans un monologue justement. J'aime pas trop ça. Ça fait l'impression un peu fermée, comme si on voyait pas le public et qu'on était hyper à fond dans ce qu'on joue et tout ça. Je dis attention là, j'ai peur. Moi j'aime bien avancer vers les gens en disant je vais jouer ça. Au début ce sera comme ça, puis après il y a un moment où c'est comme ci et comme ça. J'aime bien approcher les gens au départ en disant la forme de l'écriture elle fait qu'il y a tac 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 une série de petits chants et vous verrez il y a des silences à chaque fois. On y va. Comme si j'étais en répétition et ça commence. J'aime pas trop. Sur cette solitude du narrateur que je suis, de l'aide que je suis, du griot que je peux être, j'aime pas trop la sensation appuyer le truc hyper impressionnant dans l'émotion, hyper fort ou hyper en densité, dans la solitude en scène. On dit, oh putain, il n'a pas peur, hein, il s'expose, il se fait mal ou je ne sais quoi. Non. Non, c'est rester en relation, en communication avec le public. On le sent d'ailleurs, on pourrait presque au milieu d'une phrase dire, vous êtes d'accord, les gens répondraient immédiatement, oui, non, mais quand même, il y a un truc, voilà, il y aurait presque un dialogue. Garder cet état-là, de la constatation, être un peu moins en représentation. Je dirais, donc, quand je m'amuse avec le texte, il me prend comme ça, j'ai pas envie, je fais gaffe à faire gaffe, à, je ne peux pas être trop en représentation.
Par ailleurs, vous avez votre travail de comédien,
oui,
que vous faites, dans lequel vous parlez des frontières,
oui,
et des migrations aussi, et par ailleurs... vous ne faites pas que d'être en représentation, ouais, dans un spectacle qui parle des frontières aussi, par ailleurs. Vous-même,
oui,
vous participez à un projet de construction de bateaux qui, voilà, permettra de sauver des personnes en
oui,
détresse, en Méditerranée notamment.
Alors, je peux dire, ce bateau, il existe d'ores et déjà. C'est plusieurs équipes assemblées qui le constituent. Et ça, c'est déjà l'existence d'un navire. Navire à venir. Tel est son nom. Il s'agit d'un catamaran, très bien dessiné, très bien profilé, rapide sur les eaux et fort aussi en énergie, parce qu'il est avec des voiles modernes, et donc une économie dans la dépense d'hydrocarbures. Ce bateau est destiné au sauvetage en haute mer et en Méditerranée plus particulièrement, pour sauver tous les naufragés et être en mesure de répondre aux appels au secours, être en mesure aussi de faire un sauvetage qui se passe le mieux possible avec un accueil qui puisse être digne. Actuellement, les bateaux de SOS Méditerranée, qui d'ailleurs seront engagés sur le navire à venir, le bateau de SOS Méditerranée, Océan Viking, vous savez qu'il est adapté d'un vieux bateau, d'un cargo datant des années 80, même avant. Il y a tout un bricolage génial à l'intérieur pour réussir à abriter les gens, mais les opérations sont lourdes, difficiles. Donc, navire à venir, c'est le désir de faire un bateau de sauvetage bien conçu, pensé longuement, pas plusieurs équipes, des architectes, mais aussi des équipes de médecins, des rescapés, des sauveteurs, des tas de personnes, des artistes aussi qui travaillent sur certains domaines, des juristes aussi qui travaillent sur l'idée de pouvoir faire de ce bateau un bateau naviguant sous pavillon européen. Parce que c'est la dignité de l'Europe aujourd'hui, au moins, de pouvoir dire qu'elle est fidèle à sa culture, la Méditerranée, à son histoire très ancienne, et qui est celle, pour Ulysse par exemple, projeté d'île en île, de trouver l'hospitalité, de trouver un accueil, de risquer les tempêtes, mais de savoir qu'il y a peut-être une chance d'être secouru. Un bateau de secours, c'est comme de dire, une ambulance, c'est pas fait par humanitarisme, c'est pas fait par, c'est parce que c'est nécessaire. Donc le bateau de sauvetage s'inscrit dans cette idée-là. Il pourra accueillir 370 personnes à bord et plusieurs réalisations sont assez exemplaires dedans, c'est-à-dire permettent aussi de faire évoluer toute la problématique du sauvetage en mer, en particulier les accès des barques par l'arrière du catamaran qui permettent la conception des différentes parties du bateau, qui garantissent aussi un accueil, le soutien psychologique ou en tout cas la prise en compte de l'état des rescapés, parfois de l'extrême épuisement, de ce qu'ils ont vécu, etc. Bref, voilà, c'est ça. Navire à venir, c'est donc quelque chose qui petit à petit grossit, qui se lie à des centres d'art, à des lieux culturels, c'est important, à des festivals, Festival d'Avignon, des choses comme ça. Et donc on accompagnera, on manifestera sa présence. L'autre jour, on a fait devant Beaubourg un dessin du catamaran à l'échelle 1. Et pendant une semaine, on faisait des visites du bateau. On avait le bateau vu par-dessus, en quelque sorte, mais on expliquait comment fonctionnaient ces différents étages, ces ponts, où était la cabine de conduite, etc. Tout le fonctionnement du bateau.
Du bateau.
Navire à venir.
En l'occurrence, là, pour le coup, on pose souvent la question de l'engagement des artistes. Là, pour le coup, c'est un engagement qui n'est pas simplement artistique, d'ailleurs.
Non, non, on peut dire ça, effectivement, c'est parfois... Non, non, bien sûr, c'est du... beaucoup de déplacements, beaucoup de préparation, de pouvoir intervenir, y être là tous les jours à certains moments, etc. Ouais. Oui, oui. Accueillir aussi... chez moi, des gens qui participent à l'opération, un ami migrant, Aman, qui vient de Lyon, qui séjourne chez moi, puis après repart, etc. Voilà.
Et pour ce soir, donc, nous allons pouvoir assister à cette représentation que vous allez donner à la station de théâtre, à la Mézières, de ce spectacle et de ce texte intitulé Frontalier de
oui.
Jean Portante.
Oui. Mais puisqu'on parlait de ça, Frontalier, je le garde par-devers moi. Quelquefois, je le joue de manière très dépouillée dans des endroits où il y a peu de technique, très peu. Il suffit pour moi de dérouler le texte et le miracle a lieu. Et certaines fois, comme au mois de mars, j'irai à Toulouse jouer au Théâtre Garonne pour SOS Méditerranée. On gardera les bénéfices pour SOS Méditerranée. Et d'ailleurs, je dois jouer dans la région de trois fois pour SOS Méditerranée, voilà.
Eh bien, merci Jacques Bonafé pour cet entretien donc à la Station Théâtre autour de ce spectacle Frontalier. Merci à vous.
Merci.